Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 10 février 2016. Alors, c'est Maxime Despomerleaux. Toujours contente de vous retrouver une fois de plus à Ça vaut le détour, votre rendez-vous du midi. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_M. Vous pouvez commenter suite à nos invités ou nous soumettre des sujets dont vous voudriez qu'on parle. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation Les Petits Trésors de l'hôpital Rivière-des-Prairies. L'hôpital Rivière-des-Prairies est le seul hôpital pédopsychiatrique au Québec, spécialisé notamment sur les questions de santé mentale chez les enfants et les adolescents. Pour notre segment techno, on reçoit Dominique Labbé, développeur chez Humanware. Il viendra nous parler de la nouvelle mise à jour du Victor Reader Stream. Et s'il y en a comme moi qui ne savent pas ce qu'est le Victor Reader Stream, on aura l'occasion aussi d'en parler ensemble. Vous avez peut-être vu la nouvelle passer dans le journal Métro le week-end dernier concernant certains cas de négligence de chauffeurs de transport adaptés à l'égard des personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, notamment avec les enfants. En 2015, 18 % des plaintes adressées à la Société de transport de Montréal concernaient le transport adapté. On en parle avec Christelle Labrec-Dupuis du RUTA Montréal plus tard dans l'émission. Une des grandes inquiétudes des parents avec des enfants vivant avec une déficience intellectuelle est « Que va-t-il arriver à mon enfant lorsque je ne serai plus là? » Questionnement légitime. La question de l'héritage à la fois monétaire et matériel peut être un véritable casse-tête pour les parents. Pour assurer l'avenir financier de son enfant, on peut se tourner vers la fiducie testamentaire. Maître Laurent Fréchette nous en parle davantage. Bonjour, Maître Fréchette.
Bonjour, Madame Pomerleau.
Donc, tout d'abord, on va vous présenter, vous êtes Maître Laurent Fréchette, notaire TEP au cabinet Hogg Fortier Fréchette. Que veut dire l'acronyme TEP?
Trust and Estate Practitioner. Donc, c'est une reconnaissance à l'international comme spécialiste en fiducie et succession. Donc, je suis membre de la Society of Trust and Estate Practitioner, le STEP, qui est basée à Londres, en Angleterre.
Et donc, on va démystifier, en fait, aujourd'hui, tout ce qui entoure la question de l'héritage, notamment pour les enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle. D'abord, qu'est-ce qu'une fiducie testamentaire?
Alors, une fiducie testamentaire, son nom le dit, provient d'une succession, donc c'est d'origine testamentaire. C'est par testament qu'on crée la fiducie qui ne prend effet que lorsque le décès du testateur survient. Alors, comparativement à une fiducie entre vifs qui naît alors qu'une personne est encore vivante. On a souvent entendu parler des fiducies familiales de gens fortunés. Alors ça, c'est des fiducies entre vifs, alors qu'une fiducie testamentaire naît par le décès d'une personne.
Et donc, c'est soumis à des conditions d'usage et de durée précises, déterminées avant.
Exactement. Alors, on a à déterminer l'affectation des biens, ce pourquoi les biens vont être utilisés, qui seront les bénéficiaires de cette fiducie. Donc, on peut prévoir une ou des personnes ou des groupes de personnes ou des associations. Et finalement, il y aura les administrateurs de la fiducie qu'on appelle des fiduciaires, qui sont habituellement une ou plusieurs personnes qui auront la responsabilité de voir à respecter l'affectation de la fiducie pendant la durée que la fiducie aura été prévue. Alors, dans le cas de personnes handicapées, évidemment, on va parler habituellement de la vie durant de l'enfant qui est handicapé.
Mm-hmm. En quoi est-ce que c'est différent d'un héritage conventionnel?
Alors, un héritage conventionnel, l'enfant hérite personnellement des biens, donc étant propriétaire de ces biens-là, dans certains cas, surtout lorsqu'on parle de déficience intellectuelle, d'autisme, dans ces cas-là, la personne n'est habituellement pas en mesure elle-même d'administrer les sommes, mm-hmm. et donc on aura habituellement recours au régime de curatelle, donc les régimes de protection, tutelle ou curatelle, qui auront à être nommés pour voir à veiller à administrer les sommes d'argent, rendre des comptes à l'État, et il y a une certaine perte de contrôle là, à l'égard des sommes d'argent. Par ailleurs, comme les sommes vont appartenir à l'enfant, ben ça peut avoir certaines conséquences à l'égard des programmes sociaux, notamment l'aide sociale. Alors, il y a des montants auxquels on ne peut pas dépasser, là, que si on reçoit une somme trop importante à ce moment-là, on est coupé de l'aide sociale. Lorsque les biens sont transférés en fiducie, ce n'est pas l'enfant qui est propriétaire, c'est la fiducie qui est propriétaire. Et donc, c'est possible de venir fixer certaines conditions quant à l'utilisation des sommes et la façon que ça va être fait pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas pénalisé, notamment pour l'aide sociale.
Quelles sont les précautions à prendre pour éviter même des malentendus ou de devoir ajuster, faire des rétroactions, le genre de choses dans lesquelles on n'a pas envie d'embarquer? Qu'est-ce qu'on doit prévoir?
Entre autres, la fiducie va venir indiquer qu'il y aura des comptes qui auront à être rendus à certaines personnes, de venir déterminer exactement les conditions de l'affectation. Une affectation qui n'est pas précise, évidemment, va amener à interprétation, peut créer des problèmes aussi, certaines attentes que des personnes peuvent avoir sur l'utilisation qu'on va faire de l'argent. D'avoir de bons fiduciaires, alors on n'a pas besoin d'être notaire ou d'être comptable ou administrateur agréé pour être fiduciaire. Certaines personnes ont souvent l'impression que faut se tourner vers les fiducies corporatives. Les fiducies mm-hmm. corporatives ont des frais qui sont quand même substantiels et ça répond pas nécessairement à tout coup aux besoins de la personne concernée. Alors, avoir des fiduciaires qui ont du gros bon sens, qui sont capables de s'entourer des personnes pour les aider à prendre les bonnes décisions appropriées au niveau de la gestion de l'argent. D'avoir des personnes qui sont moindrement organisées, débrouillardes. Il faut quand même être capable de savoir un petit peu se débrouiller avec la gestion des sommes et puis mm-hmm. être capable de se tourner vers des professionnels appropriés. Avoir des personnes qui vont également avoir un intérêt minimal pour l'enfant. Alors, c'est beau de dire qu'on va demander à un membre de la famille de prendre des responsabilités, mais si cette personne-là n'a pas d'affinité, n'a jamais été présente ou a eu d'intérêt pour l'enfant, ben, faut pas s'attendre à ce que soudainement, là, d'un coup de baguette magique, la personne va changer. Alors, la préparation, habituellement, va nous amener à ce que même si le parent n'est pas à l'article de la mort, ben, il va déjà commencer à préparer le terrain au niveau mm-hmm. du réseau autour de l'enfant pour que les personnes concernées ben, voient un petit peu de quelle façon on s'occupe de l'enfant pour être capable de faire une certaine continuité. Alors ça, c'est un paquet d'éléments auxquels on peut s'arrêter.
Et il n'y a pas d'obligation à ce que ça soit un membre de la famille?
Il n'y a pas d'obligation à ce que ça soit un membre de la famille. Je dirais que c'est une question de proximité mm-hmm. où on veut quand même s'assurer que les personnes qui vont voir agir soit quand même suffisamment proche de l'enfant pour connaître son besoin puis jouer un rôle quasi parental, si on mm-hmm. veut, mais il n'y a pas d'obligation formelle. Idéalement, moi, j'aime bien qu'il y ait 3 fiduciaires, de manière à ce que les décisions soient prises à la majorité. Alors, mm-hmm. on évite de cette façon-là d'être constamment dans des procédures de médiation ou d'arbitrage parce qu'on a 2 fiduciaires. La loi oblige également à ce que l'un des fiduciaires soit absolument une personne qui ne sera pas en conflit d'intérêts potentiels ou éventuels avec la fiducie. Donc, une personne qui ne sera pas appelée à hériter lorsque, par exemple, l'enfant va décéder. Mm-hmm. Parce que la fiducie qui a un montant d'argent X, 100 000 $ par exemple, et l'enfant décède et il reste encore 40 000 $, l'acte de fiducie aura prévu qu'est-ce qui va advenir des sommes. Qu'est-ce qu'on va faire des biens mm-hmm. de la fiducie? Et donc, on va prévoir un deuxième usage où on pourra arriver, par exemple, et dire, ben ça retournera à mes autres enfants ou ça ira à un organisme ou à un groupe de personnes. Auquel cas, on doit s'assurer que l'un des fiduciaires ne sera pas parmi ce groupe de personnes, parce que il y aurait nécessairement un conflit d'intérêts. Alors, le Code civil oblige à ce que au moins l'un des fiduciaires ne soit pas une personne en conflit d'intérêts. De là, le fait d'avoir plusieurs fiduciaires qui facilitent le travail. Et lorsqu'on a trois fiduciaires, ben, écoutez, deux sur trois peuvent facilement arriver à être fonctionnels.
Oui, c'est bon. Aussi par mesure de précaution. Maître Fréchette, on a abordé brièvement le sujet de l'aide sociale avec lequel plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle doivent jongler. Qu'est-ce qui en est concernant le REI ou les crédits d'impôt pour les personnes handicapées?
Alors, juste avant qu'on passe au REI, simplement dire qu'actuellement, les gens ont entendu parler du projet de loi 70 qui est à l'étude à l'Assemblée nationale. Il y a entre autres un article de ce projet de loi qui va porter spécifiquement sur les successions et les fiducies pour venir régulariser une situation qui perdure depuis quelques années, là, d'une certaine ambiguïté à l'égard des fiducies, entre autres. Alors, ça va être intéressant de continuer de faire le suivi de ce projet de loi-là qui vient éclairer là, un certain nombre de choses. Et donc, alors je termine la parenthèse là-dessus
oui,
pour dire que c'est d'actualité.
Oui.
Quand on parle de REI, alors en 2008, le gouvernement fédéral a mis en place un nouveau régime enregistré d'épargne invalidité au profit des enfants ou des personnes qui ont un handicap reconnu, donc des personnes qui, pour le gouvernement fédéral, ont un handicap suffisamment important pour que ça leur permette d'obtenir un crédit d'impôt de personnes handicapées. Et donc, ce régime a pour objectif de permettre aux familles d'économiser des sommes d'argent en vue de l'avenir futur des personnes handicapées concernées. Alors, c'est un programme qui est plus qu'intéressant parce qu'il y a des subventions substantielles qui s'accumulent au fil du temps. Une personne, par exemple, qui va être assistée sociale et qui va contribuer à raison de 125 $ par mois, donc 1 500 $ par année, pourrait se voir verser un bon canadien d'épargne invalidité de 1 000 $ et une subvention canadienne d'épargne invalidité de 3 500 $ pour un total de 6 000 $, donc le 1 500 $ versé par la personne et 4 500 $ versé par le gouvernement. On parle donc de 300% de subventions et de bons qui sont versés par l'État, ce qui permet d'accumuler ces sommes à l'abri de l'impôt pendant une période de vie. Alors, les gens peuvent accumuler des sommes de cette façon-là. On peut contribuer jusqu'à raison de 200 000 $ dans un REI et obtenir au fil du temps, jusqu'à 70 000 $ de subventions et 20 000 $ de bons.
Donc, ça serait possible de pouvoir prendre une partie de la fiducie et de la mettre, de la placer dans un REI.
Habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on, dans notre acte de fiducie, on va indiquer que les fiduciaires seront autorisés à pouvoir se servir des sommes d'argent pour, entre autres, contribuer dans la REI et aller chercher le maximum de subventions. Mais il faut le voir de façon un petit peu plus globale. Il y a la fiducie, le REI est comme un élément complémentaire à la fiducie, mais il faut tenir compte également qu'il y a d'autres dispositions d'ordre fiscal, par exemple des roulements fiscaux, des REER qu'on peut faire en faveur d'un enfant handicapé, des transferts qui puissent être faits dans les REI. C'est pour ça que c'est important d'avoir un expert qui nous accompagne dans cette démarche-là. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de notaires qui font une pratique très active là, à ce niveau-là. Il faut peut-être vérifier auprès de notre notaire, est-ce qu'il a déjà fait des fiducies? Est-ce qu'il est confortable avec le fait d'avoir des personnes handicapées? Parce que les dispositions de la loi de l'impôt sont spécifiques à ces gens-là, très différentes de ce qu'on fait pour une fiducie traditionnelle. Est-ce qu'il a déjà traité ce genre de dossier? Et le cas échéant, ben, lui demander qu'il puisse référer là, à un notaire là, qui fait cette pratique-là.
Laurent Fréchette, vous êtes notaire TEP au cabinet Hogg Fortier Fréchette. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos conseils aujourd'hui.
Ça m'a fait grand plaisir et ça me fera encore plaisir de communiquer avec vous le cas échéant s'il y a d'autres sujets qui se présentent.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Clap prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés.
Toutes les tentatives ont été des échecs complets.
Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme.
Elle en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Maso à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses.
Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code.
Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne, en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids.
Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête.
From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne, quand le téléphone sonne, elle répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses.
Victime de la mode, tel est son nom de code.
Oh là 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 là.
Victime de la mode, tel est son nom de code.
Donc, en guise de conclusion, à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention.
Espérons que vous avez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau.
Attaque, tic, attaque, tout éthique avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce funky beat.
La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses.
Aux victimes de la mode, tel est son nom de code.
Oh là 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 là.
Victime de la mode, tel est son nom de code.
Oh là 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 là.
Victime de la mode, tel est son nom de code.
Oh là 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 là.
De la mode, elle est son nom de code.
Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Elle était occupée à couper du PQ.
Victime de la mode, elle est son nom de code.
Oh là 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 là.
Victime de la mode.
Victime de la mode, on les a reconnus, trio de leur album Né quelque part, paru en 2014, mais il s'agit en fait d'une reprise d'un succès de MC Solar. Alors moi aussi, j'ai découvert ça ce matin. On continue à l'émission Ça vaut le détour. Dans notre segment techno, chaque semaine, on essaie de découvrir différents éléments, différents outils, en fait, que les gens peuvent utiliser. Cette semaine, c'est le directeur de développement chez Humanware, Dominique Labbé, qui est avec nous. Et on va parler des nouveaux développements du côté de l'appareil Victor Reader Stream. Bonjour, M. Labbé.
Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation.
Ça nous fait plaisir. Donc, d'abord, pour des incultes au niveau technologique comme moi, qu'est-ce que le Victor?
Le Victor, c'est une famille de produits qu'on a lancé en 1998. On a déjà fait quelques générations. Celui dont on parle aujourd'hui, c'est la deuxième génération de Victor Reader Stream. Le Victor Reader Stream, en un résumé très simple, c'est un lecteur de livres portatifs. C'est le iPod pour aveugles, c'est ce qu'on aime dire aux gens. Donc, les gens peuvent écouter des livres parler et avec le temps, on a ajouté des fonctionnalités, télécharger balado-diffusion, donc les podcasts. L'émission qu'on écoute présentement va être disponible sur mon stream quelque part demain ou je ne sais pas quelle fréquence vous les ajoutez. On peut écouter la radio Internet, on peut écouter de la musique. Donc, les gens peuvent se retrouver et faire un paquet de fonctions et c'est beaucoup plus simple, évidemment, qu'un appareil téléphone cellulaire ou, bon, les plus technologiques peuvent utiliser. Les gens qui sont un peu moins technologiques vont se retrouver beaucoup plus facilement avec un appareil dédié qui contient des boutons mécaniques au lieu d'avoir un écran tactile, par exemple.
Plus facile à repérer aussi.
Exactement. Et on a du guidage vocal. Donc, les gens se retrouvent plus facilement avec le guidage vocal qu'on a développé pour eux.
Et c'est donc dans la compagnie Humanware, il y a des bureaux de recherche, notamment dans la région de Montréal, le siège social est à Drummondville. Vous disiez qu'il y en a aussi à Londres.
Et... On a des bureaux de distribution, donc on a des produits qui sont distribués un peu partout sur la planète. Donc, on a un bureau européen qui est en Angleterre et un bureau qu'on appelle Océanie-Asie qui est en Australie. Et exact. Ça nous permet de distribuer là, dans différents pays, évidemment. C'est des petits marchés de déficience visuelle, donc on doit s'étendre dans plusieurs pays pour réussir à avoir du succès et développer d'autres produits par la suite.
Mais je trouve que c'est très intéressant que ça soit développé au Québec, où on fait qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait vraiment de l'innovation dans ce secteur-là. Au Québec, c'est intéressant. Et donc, on parle de Victor de deuxième génération. Il y a une nouvelle mise à jour qui vient juste d'arriver. Dites-nous qu'est-ce qu'elle amène.
On a lancé un peu avant le temps des fêtes la version 4.6. Cette version-là ajoutait des fonctionnalités intéressante. Donc, la première fonctionnalité qui nous était beaucoup demandée, c'est l'enregistrement de la radio Internet. Donc, la version précédente permettait d'écouter la radio Internet. Maintenant, les gens peuvent enregistrer. Donc, ils entendent quelque chose d'intéressant à la radio, ils appuient sur le bouton « Enregistrer » et on va créer un fichier MP3 qui contient le contenu que les gens ont décidé d'enregistrer. Deuxième fonctionnalité qu'on a rajoutée, c'est d'améliorer la gestion de la balado-diffusion, donc des podcasts. On permet aux gens de faire un peu plus de choses, d'effacer un épisode, d'effacer plusieurs épisodes. C'est de la gestion qui rend les choses plus faciles. C'est des commentaires que les usagers nous envoient. Et évidemment, on veut les implémenter, on veut que les gens soient plus à l'aise avec l'appareil. La même chose, on avait déjà des fonctions de recherche avec Wikipédia, Wiktionary. Donc, les gens entendent un mot qu'ils ne connaissent pas, peuvent avec le clavier taper le mot et Wikipédia, l'article de Wikipédia, comme sur mon PC ou sur une tablette, va leur être lu. Et ils vont pouvoir savoir qu'un ornithorynque, c'est un animal d'Australie, etc. Évidemment, pour les jeunes à l'école, c'est pratique. Ça peut leur permettre de pousser un peu plus à fond leur lecture.
Bien, ça facilite la recherche aussi et justement l'intégration de nouveaux savoirs.
Exactement. Donc, on a rajouté des fonctions. Souvent, il y a plus qu'un mot qui... plus qu'un article pour un mot, donc on peut maintenant choisir lequel des articles. Québec est peut-être une ville, mais c'est aussi une province, c'est peut-être un bateau et je ne sais quel autre article qu'il pourrait y avoir dans Wikipédia qui aurait le mot Québec dedans.
Et justement, donc, on parle d'enregistrement de radio Internet, donc on s'ajuste tout de même aux technologies. On a le Wi-Fi là-dessus.
Exactement. Donc, la version de la deuxième génération du stream, celle qui est ici, ce qu'elle ajoutait, c'était principalement la connectivité. L'appareil précédent, la première génération, était uniquement sur des cartes SD. Donc, les gens devaient utiliser un PC pour obtenir du contenu. Maintenant, on a rajouté le Wi-Fi. Donc, les gens, lorsqu'ils sont connectés à la maison, au travail, au boulot, à l'école, vont faire un certain nombre de fonctions. Donc, réseau Internet, abonnement à des balado-diffusions, des podcasts, comme on appelle, consulter les articles Wikipédia, obtenir une mise à jour en ligne. Donc, les gens, lorsqu'il y a une mise à jour, sont informés par l'appareil qu'une mise à jour est disponible. Donc, plutôt que de courir, aller sur le site web, chercher, transférer, mon PC n'est pas disponible. Donc, l'appareil permet de faire ça automatiquement, ce qui, pour bien des gens, surtout les personnes moins technologiques, ils sont autonomes uniquement avec l'appareil.
On peut tout de même, les mises à jour qui sont gratuites, on le souligne, on peut tout de même procéder à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur aussi pour faire les mises à jour.
Effectivement, donc les gens qui veulent le faire de la façon plus traditionnelle peuvent aller sur notre site web avec quelque appareil qui est tablette ou PC, télécharger, transférer sur la carte SD. Mais nos statistiques démontrent que la majorité des gens le font maintenant à même l'appareil parce que c'est beaucoup plus simple. On fait simplement confirmer, on attend quelques minutes et la mise à jour se fait.
Et quelle est la différence entre le Victor Reader Stream et les lecteurs Victor Daisy ou MP3? Ça, c'était le nom de la génération précédente.
On a eu différentes choses. On a encore deux appareils présentement. On a les appareils Stratus qui sont basés sur des CD-ROM. Il y a encore des gens qui utilisent le CD-ROM de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de services en ligne, mais on offre quand même ce service-là selon les pays, les endroits où ils ne sont pas encore passés en ligne. Ce qu'on a vraiment avec le Stream, c'est cette notion-là d'être carte SD. Et d'utiliser le Wi-Fi pour transférer. Donc, c'est vraiment de quitter le monde du CD. On sait tous que le CD n'est pas nécessairement la technologie la plus moderne. Donc, tranquillement, pas vite, le CD va disparaître dans notre vie de nous tous les jours. Et on le voit déjà avec les chiffres de vente de la musique où le téléchargement en ligne a dépassé les ventes sur CD. Mais dans les livres parlés, c'est la même chose. Les bibliothèques s'éloignent de plus en plus du CD pour aller vers le mode en ligne.
Oui, vers le mode en ligne, vers le format numérique. Justement, est-ce qu'on est capable, en sachant qu'on a le produit distribué un peu partout, est-ce qu'on est capable de dresser un portrait du type de clientèle ou de ce que cette clientèle va chercher avec le Victor Reader Stream?
On touche vraiment toutes les clientèles, évidemment, principalement des gens qui ont un handicap visuel, mais aussi à l'occasion des gens qui ont de la dyslexie. Dans certains pays, les gens sont qualifiés pour obtenir les services. Et on commence avec des jeunes à l'école et on termine avec des personnes qui sont à la fin de leur vie et on a tous les choses entre les deux. Donc, on essaie de viser vraiment d'avoir des fonctions qui sont puissantes, mais simples. Donc, les gens qui sont plus technologiques vont retrouver la fonctionnalité qu'ils aiment, mais on ne veut pas non plus rendre ça complexe. Donc, ma grand-mère et ma fille pourraient utiliser l'appareil. Ils vont l'utiliser de façon différente, mais vont bien se retrouver avec l'appareil. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans notre vie de développeur, de garder ça le plus simple possible tout en offrant des fonctionnalités.
C'est un petit appareil portable, vraiment de la grosseur d'un cellulaire pratiquement ou d'un lecteur, d'un iPod, d'un lecteur MP3. Est-ce que la durée de vie de l'appareil est assez bonne? Est-ce que la batterie se décharge en une journée?
Ben, écoute, ça dépend ce que les gens font, s'ils utilisent le haut-parleur ou les écouteurs. Mais un mode normal avec les écouteurs, on fait plus qu'une journée. Moi, on marque, je crois, 14 heures dans les spécifications. Ça dépend de l'utilisation. J'ai des gens qui font 15 ou 16 heures. Donc, c'est vraiment intéressant. Je n'ai pas fait un voyage en avion où je suis arrivé au bout et j'avais plus de batterie, ce qui est intéressant par rapport à mon cellulaire qui, habituellement, a arrêté de fonctionner bien avant. Et évidemment, on développe l'appareil de façon robuste, c'est-à-dire qu'on sait, moi, je l'ai toujours dans mes poches, je l'échappe régulièrement. Donc, c'est une préoccupation pour nous que les gens puissent être certains que leur appareil ne se brisera pas au moindre petit bris. Donc, on peut l'échapper quelques fois par terre, contrairement peut-être à un iPhone qui, des fois, va subir une chute et se briser du premier coup.
En terminant très rapidement, Dominique Labbé, si on a besoin de cet appareil-là, est-ce qu'il est dispendieux et où peut-on se le procurer?
Deux façons, évidemment. Les gens qui ont accès à des services de la RAMQ peuvent se faire attribuer des appareils. Pour les gens qui veulent l'acheter avec leur propre fonds, peuvent communiquer avec Humanware sur notre site web www.humanware.com ou nous appeler. Et ça va nous faire plaisir, bien sûr, là, de le rendre disponible aux gens.
Merci beaucoup. Dominique Labbé, vous êtes directeur de développement chez Humanware et vous êtes venu nous présenter les nouvelles mises à jour du Victor Reader Stream. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir. Merci.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
On en parlait en début d'émission. Des organismes communautaires dénoncent le comportement négligent et inapproprié de plusieurs chauffeurs de taxi du transport adapté géré par la Société de transport de Montréal à l'égard de personnes ayant des déficiences intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme, souvent des enfants. C'est un article paru dans le journal Métro ces derniers jours. On voulait en savoir plus sur la problématique, donc on joint au téléphone Mme Christelle Labrec-Dupuis du Regroupement des usagers du transport adapté de Montréal, le RUTA. Bonjour, Mme Labrec-Dupuis.
Bonjour.
Donc, c'est un article qui a paru dans les derniers jours et qui nous dévoile tout de même des faits un peu troublants. C'est quoi le protocole de la STM lorsqu'il y a une plainte concernant le mauvais comportement ou le comportement négligent d'un chauffeur qui atterrit sur le bureau?
Ben en fait, le protocole quand il y a une plainte, je le sais pas là. Je sais que la STM elle traite les plaintes qui sont reçues, vraiment toutes les plaintes là. Mais le protocole comme tel, ça c'est quelque chose d'interne à la STM.
Et ben qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui est dénoncé beaucoup dans l'article, c'est le fait qu'il n'y a pas de surveillance. On dit que le transport adapté est un transport de porte-à-porte, c'est connu, mais c'est aussi un transport de personne responsable à personne responsable, lorsque c'est le cas, par exemple, d'un enfant qui vit avec un TSA ou une déficience intellectuelle. Qu'est-ce qui arrive si un chauffeur arrive à destination avec un enfant et que personne n'est là, la personne responsable, donc, n'est pas présente?
Oui, en fait, la consigne au chauffeur, c'est vraiment de rester sur place. Peu importe qu'il y ait d'autres usagers dans son véhicule qui attendent, il doit rester sur place avec l'usager qui vient porter. Il doit contacter son répartiteur qui, lui, va généralement appeler la STM. Et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'un chef d'opération de la STM va venir relayer le chauffeur pour attendre avec l'usager pour que le chauffeur puisse continuer sa route.
Et est-ce que c'est fréquent qu'on signale des cas où le... Où ça arrive, où on doit dépêcher un agent de la STM pour remplacer le chauffeur, ou bien où est-ce qu'on vous témoigne beaucoup que le protocole que vous venez d'énoncer n'est pas respecté?
Bien, en fait, dans la mesure où les organismes ne sont pas obligés de passer par le RUTA pour faire les plaintes ou les commentaires, on n'en reçoit pas nécessairement souvent, mais c'est quand même quelque chose qui peut revenir de façon régulière.
Et selon vous, qu'est-ce qui fait que ça revient de manière régulière?
C'est une bonne question, ça. Ça peut être tellement de choses. T'sais, si le chauffeur, par exemple, n'a pas bien lu sa feuille de route, admettons, puis qu'il n'a pas vu qu'il fallait laisser la personne avec un responsable, ben il va laisser la personne là, puis il va s'en aller. Des chauffeurs qui ne veulent pas nécessairement attendre parce qu'ils vont prendre du retard dans leur feuille de route. Ça peut être ce genre de raison-là.
Les chauffeurs de taxi, parce qu'on parle dans le cas qui a été énoncé dans les médias, on parle surtout de chauffeurs de taxi, sachant que la STM, le service de transport adapté, fait beaucoup de sous-traitance avec des compagnies de taxi. C'est notamment 14 fournisseurs qui sont sous contrat actuellement avec la STM pour le transport adapté. En 2015, ça représentait 3,4 millions de déplacements en taxi. C'est un chiffre très important. On sait que les chauffeurs de taxi doivent suivre une formation pour bien travailler avec la clientèle. Est-ce qu'elle est adéquate, cette formation-là?
Bien, adéquate, je pense que oui. C'est quand même une formation de 8 heures. C'est une formation qui peut être aussi modifiée au fil du temps, justement selon les plaintes que la STM reçoit. Il peut y avoir des ajustements faits. Après ça, il y a toute la question de à quel point le chauffeur intègre la formation, comment il va la comprendre, comment il va l'intégrer et l'appliquer. Et nous, on aimerait ça aussi qu'il y ait un rappel de cette formation-là. Ça, c'est peut-être la lacune. Souvent, ils vont prendre la formation une seule fois parce qu'ils sont obligés, puis c'est tout. Mais dans la mesure où, quand il vient le temps de renouveler leur permis de travail de chauffeur, ils doivent montrer qu'ils ont fait l'équivalent de 2 jours de formation. Mais que c'est eux qui choisissent les formations qu'ils font. Nous, on aimerait que dans ces formations-là, ceux qui font vraiment du transport adapté soient obligés de faire, une fois de temps en temps, un rafraîchissement de la formation vraiment par rapport au transport adapté.
OK, la formation, une forme de formation en suivi, de suivi, finalement, continue.
Oui, exactement.
Et mis à part, les comportements qui sont difficiles à noter, ça va selon les plaintes qui sont reçues et les commentaires qui émanent. Il y a par contre le phénomène des feuilles de route, on en parlait, qui font que parfois le transport va arriver en retard ou même à l'avance de l'heure prévue. Et ça a un incident sur les activités des usagers. Ça peut même, dans certains cas, engager des frais que les parents, par exemple, des enfants, doivent assumer. S'il y a des professionnels qui doivent faire du temps supplémentaire parce que le transport adapté est en retard, c'est une facture qui s'ajoute pour la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que le RUTA est en mesure de faire pour essayer de réduire ça à l'avenir?
C'est vraiment une question complexe, surtout les retards, parce qu'à la base, il y a des choses qui font qu'il y aura toujours du retard, comme la circulation, comme les intempéries l'hiver.
Ça, et les travaux.
Choses... Oui.
On ne se cachera pas.
Non, les nombreux travaux, ça, c'est des choses qui font que, ben, des retards, il y en aura toujours. Il y a aussi des situations où on peut peut-être essayer de réduire les retards à la source, comme par exemple, il y a justement des chauffeurs qui doivent suivre leur feuille de route comme il faut, puis il y a aussi parfois les usagers eux-mêmes qui peuvent ne pas être prêts à l'heure. Ça engendre quelques minutes de retard sur la feuille de route. Il y a vraiment des sources qui viennent de plusieurs endroits différents. Et si on pouvait avoir un peu une gestion de ces sources différentes-là, probablement que ça pourrait aider dans ces cas-là.
Mais tout de même, est-ce qu'il y a un soutien qui peut être apporté aux parents, par exemple, qui doivent défrayer des frais de plus pour des services de garde ou des professionnels avec lesquels leur enfant doit rester, justement parce qu'on parle de responsabilité à ce moment-là de l'usager?
C'est une bonne question. En fait, on n'a jamais été vraiment... on ne s'est jamais posé cette question-là. Très sincèrement, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait travailler, réfléchir. C'est une bonne piste.
Et mis à part, on parle de feuilles de route toujours. Il y a aussi, on le sait, les feuilles de route peuvent occasionner des retards, en fait, en accumulant les transports. Il y a plusieurs usagers qui se plaignent de la surutilisation des véhicules, du fait qu'on entasse les gens. Que parfois, il y a certaines contraintes. Certains usagers ont des contraintes par rapport à leur fauteuil roulant, comment ils doivent placer leurs jambes, contraintes liées au corps parfois, et oui. Qui n'est pas toujours respectée. Ça peut augmenter l'irritabilité des usagers, mais aussi des chauffeurs. Et donc, peut-être mener à justement ces comportements de négligence-là. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel la STM se penche pour justement faire une meilleure combinaison des usagers lors des feuilles de route?
À ma connaissance, non. Ce que je sais, c'est qu'il existe des règles, dans le fond, qui disent que, par exemple, une personne obèse va prendre une place et demie ou deux places. Donc, il y aura, par exemple, seulement deux personnes en arrière d'un taxi berline. Mais sinon, c'est pas... La STM dit qu'elle suit les règles. Donc, s'il rentre trois personnes en arrière d'un taxi berline, ben il va y avoir trois personnes. Puis, dépendamment de la corpulence, dépendamment de comment des comportements, ben des fois, oui, ça va faire que les personnes sont vraiment pas à l'aise d'être entassées en arrière.
Et mais sinon, si on parle en termes de taxi van, par exemple, où est-ce que les usagers vont parfois rester dans leur fauteuil, ça, c'est un espace déterminé. Parfois, on va aller jusqu'à entasser deux fauteuils dans cet espace-là. C'est quand même une problématique qui est fréquemment soulevée par les usagers.
Oui, absolument. Nous aussi, on en entend quand même parler régulièrement. C'est vraiment, selon la STM, c'est vraiment des règles établies qui sont suivies. Puis c'est pas quelque chose qui va tendre à changer dans un court terme.
OK. Et qu'est-ce que... ça répond vraiment bien à nos questions. Qu'est-ce qu'un article comme celui qui a paru dans le journal Métro ces derniers jours, qu'est-ce que ça vous donne, vous, comme indice sur qu'est-ce qui fonctionne bien, mais qu'est-ce qui fonctionne pas bien à arranger et qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire comme membre actif, finalement, du réseau de transport?
Bien, nous, ça nous donne des leviers pour discuter avec la STM de ces problématiques-là particulièrement. Vraiment, depuis qu'il y a eu les articles vendredi, on a déjà eu des discussions avec la STM par rapport à ça. Mm-hmm. Donc, nous, vraiment, notre travail, c'est de faire de la concertation. Fait que c'est sûr qu'on va toujours discuter, analyser, continuer à dire à la STM qu'est-ce que c'est les besoins, puis faire en sorte que qu'ils travaillent là-dessus puis qu'il y ait des changements par rapport à ça.
Parfait. Un article comme celui-là, ça vous donne des munitions. Merci beaucoup, Christelle Labrec-Dupuis. Vous êtes agente de concertation et de projet au RUTA Montréal, le regroupement des usagers du transport adapté. Merci d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour nous parler.
Merci beaucoup.
Les rats colleurs, les rats à l'heure, laissez les rats. Les bandits à cravate, le temps qui tend trop à droite, les G.I. Joe, je regarde en haut. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. Si bas les cons, les contraventions, l'Afrique et l'insomnie, la surconsommation. Moisir dans le trafic, bouffer du boudin, sentir le monde en panique les lundis matins. Si bas la cupidité, un bon coup de pied au cul, l'avidité, les oignons crus, les demi-dieux, les pseudos experts de mes deux, dans la télé, dans la radio, dans les journaux. J'aime les oiseaux.
Le fantastique Yann Perrault n'avait pas tout à fait fini sa chanson. C'est « J'aime les oiseaux », son tout dernier extrait tiré de son album « Le fantastique désastre » à paraître très, très bientôt, en 2016. Et donc, on est toujours à « Ça vaut le détour ». Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic « CVLD » et réagir aux propos de nos invités. On estime à environ 250 000 le nombre d'enfants et d'adolescents québécois vivant avec des problèmes de comportement, des troubles de l'attention, d'autisme et autres troubles mentaux, ce qui représente plus d'un enfant sur cinq. La Fondation Les Petits Trésors de l'hôpital Rivière-des-Prairies dédie son action exclusivement pour la cause de la santé mentale des enfants et des adolescents au Québec. Et j'ai avec moi en studio Mme Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation Les Petits Trésors. Bonjour Mme Lauzon.
Bonjour, bonjour.
Et donc, on va situer tout d'abord la fondation qui est associée à l'hôpital Rivière-des-Prairies, où la pédopsychiatrie est vraiment dominante, en fait.
C'est la spécialité. En fait, cette fondation-là existe depuis plus de 30 ans maintenant. Puis au départ, il y a 30 ans, c'est des parents qui l'ont créée pour assurer le mieux-être de leurs enfants et de leur environnement familial aussi, parce que quand on vit avec un enfant qui a une difficulté en santé mentale, là, je vous dirais... C'est pas évident pour les familles. Alors, c'est comme ça que c'est né. Ça a progressé. Ça a toujours, la fondation a toujours été associée à l'hôpital. Et il y a à peu près 6-7 ans, on a changé de nom. On est devenu la Fondation Les Petits Trésors parce que on trouvait que c'était pas évident de parler positivement de ces difficultés-là. Alors, les petits trésors, c'est une richesse. Et moi, qui ai un fils autiste, là, j'explique toujours la situation. Un trésor, c'est souvent caché dans une espèce de grand coffre. Alors, le trésor est parfois dans le fond, mais il est toujours là. Alors, c'est ça l'idée générale, c'est d'essayer de voir ces enfants-là d'un autre œil. La mission de la Fondation, c'est de bien sûr supporter l'hôpital qui offre des soins, qui fait de la recherche et qui fait de l'enseignement aussi. C'est-à-dire qu'il y a des stagiaires d'un petit peu partout dans le monde qui viennent perfectionner leur savoir chez nous. Puis en même temps, on fait de la sensibilisation parce qu'on parle de 250 000 familles et enfants. On parle d'un enfant sur cinq. Donc, on n'a pas besoin de regarder très, très loin pour voir chez son voisin. Si c'est pas dans sa famille, il y en a pas très loin de ces enfants-là. Et c'est encore très tabou, la santé mentale. Les gens ont de la difficulté à imaginer qu'un enfant qui a des drôles de comportements, parce qu'un enfant qui a un trouble de santé mentale peut aussi bien faire une crise en plein centre d'achat, ils ont de la difficulté à imaginer que c'est autre chose que de la mauvaise volonté, que c'est autre chose que un caprice, que les parents donnent tout à leurs enfants. Alors, on a encore beaucoup de ce travail-là à faire pour que les gens prennent la maladie au sérieux. Et cette maladie-là, elle est très sérieuse. Ça devient extrêmement incapacitant pour bien des familles. Alors là, on parle de déficit de l'attention, on parle de troubles de l'anxiété, on parle de psychose parce qu'il y a des enfants de moins de 10 ans qui font des premières psychoses et qui donc pourraient développer la schizophrénie plus tard dans leur vie. Il y a 300 diagnostics en santé mentale, pédopsychiatrique, et il est temps qu'on s'en occupe si on veut que les générations qui vont nous suivre soient en bonne santé physique et mentale et qui puisse aussi... Moi, mon principal objectif à cette fondation-là, c'est d'outiller les gens pour que les familles vivent mieux et que les enfants puissent, avec le temps, sinon guérir, du moins apprendre à vivre avec leurs difficultés et choisir ce qu'ils ont envie de faire dans la vie.
Ne pas être contraint, finalement, de vivre selon, justement, l'état, en fait, de santé mentale. Vous le disiez, il y a des stagiaires d'un peu partout qui viennent faire des internats à l'hôpital Rivière-des-Prairies. C'est un chef de file, finalement, en pédopsychiatrie pour la santé mentale. Mais il y a, entre autres, quelques cliniques qui sont vraiment devenues des références.
Oui. Il y a, entre autres, la clinique de l'autisme. En fait, il y a plusieurs cliniques de l'autisme, là. Et donc, on est sur le point de recevoir une reconnaissance provinciale. On attend la lettre avec impatience. On devrait devenir le Centre national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme. Ça s'en vient. On en est bien fiers. Il y a le docteur Laurent Motron qui est pas mal le père de cette clinique-là, qui a développé toutes sortes de services et qui s'est associé avec des gens qui viennent d'un peu partout. Il y a, entre autres, quelques pédopsychiatres qui viennent d'Europe, qui se sont associés à lui. Alors, cette clinique-là, elle est extrêmement dynamique et il se spécialise beaucoup dans la cognition des autistes, c'est-à-dire comprendre ce qu'ils comprennent.
Le cheminement de pensée.
C'est ça. Comment ils voient les choses, comment ils mesurent les choses, parce que pour le docteur Motron, entre autres, l'autisme, c'est une autre forme d'intelligence. Alors, il considère, et je suis du même avis que lui, qu'on sous-estime et qu'on n'utilise pas, en fait, cette intelligence différente-là qui pourrait être mise au service de tous et qui pourrait, en même temps, donner une certaine valeur et de redonner de la fierté aux gens qui sont atteints de cet état, parce que c'est pas une maladie, l'autisme. Il y a aussi en pédopsie, tout l'aspect clinique de l'anxiété, on est de plus en plus reconnus là-dedans. Il y a des gens chez nous qui sont invités dans des colloques un petit peu partout sur la planète pour parler de leurs expériences. À la Fondation, on est en train de développer avec eux, d'ailleurs, un outil, une trousse sur les troubles anxieux. Il va y en avoir 6 au bout du compte parce qu'il y a différents troubles anxieux pour justement aider les enfants et la famille à mieux vivre avec ça. Donc, dans cette trousse-là, il y aura un guide pour le parent, un guide pour le professeur, un guide pour les spécialistes et aussi des outils pour l'enfant. Si on est en train de développer ça, il y en a une première qui devrait sortir là, d'ici la fin de l'année. C'est intéressant parce que ça existe à peu près pas et ça n'existe pas du tout en français. Donc, il est à peu près temps.
Il y a un gros besoin dans cette langue-là.
Ah oui, puis l'anxiété, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça semble futile. Moi, je dois vous avouer qu'avant que mon fils ne souffre en plus de son autisme d'un trouble anxieux, je me disais, ben voyons, tu as juste besoin de plus de concentration pour arriver à faire ce que tu as à faire. C'est pas du tout le cas. L'anxiété, quand ça t'habite à l'intérieur de toi, c'est comme si tu avais une tempête dans ta tête. Tu es incapable de voir quoi que ce soit. Ton humeur peut passer de la bonne humeur à une colère intense parce qu'il y a un 25 sous qui est tombé par terre. Il n'y a pas de commune mesure entre la réaction et l'événement qui a provoqué la réaction. C'est donc des enfants qui ont de la misère à l'école. Alors, et 25 % des enfants ont un trouble anxieux. C'est quand même quelque chose. Donc, il faut vraiment agir pour leur permettre de se sentir bon et fier et de continuer à avancer.
25 % des enfants qui ont un trouble anxieux, et surtout que ce n'est pas nécessairement 25 % des enfants qui le savent.
Oh non.
Donc, c'est les trousses que vous développez à la Fondation, c'est aussi pour, oui, savoir comment bien vivre avec ça, que l'entourage puisse savoir comment mieux gérer ça aussi lorsque certaines crises peuvent survenir, mais c'est aussi pour détecter des symptômes, détecter justement différents troubles, parce qu'on parle aussi de ça, l'importance de la détection.
Mais en fait, plus on les détecte trop, mieux on va être capable de les sinon de les guérir, parce que quand on parle de l'hôpital Rivière-des-Prairies, c'est un hôpital spécialisé. Donc, c'est souvent l'école les plus complexes, multiples diagnostics. Alors, si on intervient tôt, on empêche que la situation s'aggrave et peut-être qu'on peut outiller l'enfant et sa famille pour que, justement, il puisse avoir un parcours qui soit à leur image. C'est ça qui est important de faire. Sinon, ces enfants-là, en fait, ne pourront pas nécessairement s'adapter au monde. La capacité d'adaptation de la plupart des gens qui ont un problème de santé mentale, elle est drôlement limitée.
Et donc, pour développer ces outils-là, ça prend du financement.
Oui.
Vous êtes une fondation. Comment vous faites pour arriver à développer ces outils-là et vous maintenir à flot?
Bien, c'est pas évident. C'est un gros travail. En fait, quand on est une fondation, il y a toutes sortes de manières pour aller chercher de l'argent. Il y a ce qu'on appelle les campagnes majeures. Soit les campagnes majeures, et vous en entendez souvent parler parce que la plupart des fondations de grands organismes sont maintenant pratiquement tout le temps en campagne majeure. Donc, c'est du corporatif. Donc, on essaie de rassembler les grands du monde corporatif québécois autour de projets. Il y a aussi les campagnes de sensibilisation où on essaie de rejoindre le grand public, où avec la télé, on a réussi à avoir des accords avec Québécois, entre autres, où on peut avoir accès à de la pub et à sensibiliser les gens qui nous font un don en retour. Ça, c'est une façon importante de procéder. Il y a aussi les événements. La plupart des fondations organisent des événements qui permettent de recueillir des fonds qui vont aussi ensuite être reversés à l'hôpital pour financer soit les soins, des projets du côté clinique ou des projets de recherche.
Et justement, il y a un événement qui s'en vient du côté de la Fondation Les Petits Trésors au mois d'avril.
Au mois d'avril, en fait, à la fin du mois, c'est le dernier dimanche d'avril. J'ai pas la date, là. C'est soit le 23 ou le 24 dans ce coin-là. C'est le défi caritatif de la Banque Scotia. Alors, la Banque Scotia, depuis plusieurs années maintenant, réunit plein de fondations autour d'un 5 km et d'un demi-marathon qui est couru chaque année. Donc, les gens s'inscrivent, participent à la course et en plus, ils ont le devoir de recueillir un peu d'argent pour la fondation de leur choix. Alors, si vous allez sur le site Défi caritatif Banque Scotia 2016, vous allez voir la Fondation Les Petits Trésors. C'est un événement qu'on organise. Il y a beaucoup de gens de l'hôpital qui y participent. Alors, pour nous, c'est aussi un événement mobilisateur. C'est très agréable. Il fait parfois froid quand même à la fin du mois d'avril, mais comme on n'est pas fait en chocolat...
Mais comme on a un hiver plutôt doux, on a peut-être des chances.
Peut-être qu'il va faire...
notre ami El Niño va entendre votre cause. Donc, il y a ce gros événement qui s'en vient au mois d'avril, mais il y a aussi d'autres événements le reste
de l'année. Mon plus gros événement, parce qu'il y a plein de petits événements. Là, si vous allez sur le site de la Fondation, www.petittrésor.ca, vous allez tout voir ça. Il y a notre golf vélo au mois de septembre, le 13 septembre à Tremblant. C'est notre principale activité de financement. Il y a le 6 mai, si ça vous tente, ça va être gratuit. C'est une activité qui va se dérouler à l'hôpital. En fait, on va faire une demi-journée sur le suicide des enfants. Parce que c'est important, on n'en parle pas assez et on se doute pas.
Sujet extrêmement délicat et tabou.
Et chez nous, on a une clinique de l'humeur qui est spécialisée là-dedans. Vraiment, là, il y a des gens, il y aura une table ronde avec des gens et de l'hôpital et des gens de l'extérieur de l'hôpital. On a aussi maintenant, depuis le 8 septembre, à Rivière-des-Prairies, une urgence pédopsychiatrique. C'est la seule au Canada. C'est que sept hôpitaux se sont réunis quand un enfant présente des signes de problèmes de santé mentale. On l'envoie chez nous et il peut voir un pédopsychiatre en très peu de temps. Alors ça, je pense que ça va nous aider à transformer le visage de la santé mentale au Québec.
Et si on veut avoir plus d'informations ou même se porter bénévole, on peut aller sur le site petittrésors.ca. Merci beaucoup, Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation Les Petits Trésors de l'Hôpital Rivière-des-Prairies. Merci d'avoir été avec nous
aujourd'hui. Bonne journée.
C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Donc, je remercie mes invités à l'émission, Mme Sylvie Lauzon, Christelle Labrec-Dupuis-Duruta Montréal, Dominique Labbé de Humanware et Maître Laurent Fréchette en début d'émission. Je remercie évidemment mon équipe technique, sans qui tout cela ne serait pas possible. À la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.